Éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard, le 1er mai 90.
Question sur l'autorité. Vous vous souvenez, le dernier cours, je posais la question de la naissance de l'autorité pour nous. C'est toujours très important. Pouvons-nous parler d'autorité en éthique humaine fondamentale? Pouvons-nous parler d'une vertu d'obéissance en éthique de l'amitié? Ou au contraire, l'obéissance comme vertu? Donc l'obéissance dans sa plénitude. C'est le propre de la vertu. Il y a évidemment une certaine disposition à l'obéissance en éthique de l'amour, de l'amitié. Vis-à-vis de son ami, on est quand même un peu docile. On n'est pas toujours de mauvais poil dans nos positions. On essaie d'être docile. Mais la docilité n'est pas l'obéissance. exercer une certaine discipline qui tient un certain temps et n'exerce pas l'autorité. Une loi qui est contraire à la finalité de l'homme n'oblige pas en conscience. Elle n'a pas d'autorité. Donc, c'est nécessaire pour que l'autorité puisse s'exercer qu'il y ait un sens de la finalité. Mais ce n'est pas la seule condition. Il y a quelque chose de plus qu'il faut. C'est ce quelque chose de plus qu'il faut essayer de comprendre pour la découverte de ce qu'est l'autorité. Nous avons vu, l'amour d'amitié implique l'unité entre les amis et la totale confiance. Mais n'implique pas qu'un ami ait vis-à-vis de l'autre une autorité. Pourquoi ? C'est assez curieux. L'ami comme tel est ma fin, mon bien. Mais il n'exerce pas nécessairement l'autorité sur moi, comme ami. Pour qu'il y ait autorité, il faut qu'il y ait donc le sens de la finalité et qu'il y ait aussi une connaissance des moyens, autrement dit, le point de vue de la prudence. L'autorité ne repose pas seulement sur le sens de la finalité, mais aussi le point de vue de la connaissance. Exercer l'autorité. On peut aider, soutenir, mais on ne peut pas exercer l'autorité. L'ami soutient, aide, porte, permet la coopération. Mais pour qu'il y ait autorité, il faut qu'il y ait suffisamment de recul. Segregatus ut imperet, cette fameuse parole d'Anaxagore. Yes. chose existe au niveau familial entre le père et l'enfant. Le père essaiera qu'à tout ça. Et quelquefois, il le sait très bien. Il est séparé parce qu'il y a une génération différente. Il est source. Donc, il est quand même séparé. Mais le père, comme tel, s'il est très intelligent, s'il a développé son intelligence, il peut commander. Parce que il aime, il est séparé. Il a une certaine transcendance. Mais cette transcendance est limitée. Lorsque l'enfant arrive à avoir sa propre prudence, sa propre personnalité pour choisir l'orientation de sa vie, le père, le géniteur, n'a plus d'autorité. Son autorité disparaît. Donc, il a une autorité partielle, uniquement pour l'enfant, dans son devenir, et pas plus. Il ne peut pas avoir de l'autorité vis-à-vis de l'orientation fondamentale de l'enfant vis-à-vis de sa propre finalité. Le père, comme tel, ne peut pas imposer à ses enfants les amitiés, la finalité. Il peut orienter, il peut, mais il ne peut pas imposer. Tu aimeras celui-là. Peut orienter, aider, quand l'enfant est encore suffisamment enfant. Et dès qu'il arrive à avoir suffisamment de personnalité, l'enfant pourra choisir ses amis. Et il les choisira non pas parce que c'est le père qui lui dit, mais il choisira parce qu'il a découvert dans l'autre quelque chose d'unique. C'est mon bien. Et c'est pas le bien de mon père. Et dans les mariages, quelquefois vous avez des mères qui veulent protéger la foi de leur enfant. Faut à tout prix que tu épouses hein, quelqu'un qui a une grande foi. Alors tu vois là, celle-là, c'est celle-là que tu dois épouser. Quand la mère dit ça, c'est suffisant pour que le fils parle de l'autre côté. S'il a une certaine personnalité. Et on est sûr que si le fils fait ce que la mère dira, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y aura pas de vrai choix. Donc il n'y aura pas une véritable amitié. Il faut découvrir par soi-même. On comprend très bien que la mère fait ça, la mère poule fait ça. Il ne faut pas qu'il s'en aille n'importe où. Alors on va le fourrer là. Quand une mère a découvert la communauté Saint-Jean et qu'elle l'aime, oh, il faut que mon fils entre là. Ce n'est pas une vraie vocation. Elle peut aider, faire des rencontres, mais pas plus. Mais c'est très important de saisir où l'autorité apparaît comme autorité. Quand vous découvrez le Créateur comme Créateur, alors vous découvrez la transcendance de Dieu. Une transcendance aimante, une transcendance qui me porte dans l'ordre de la connaissance et dans l'ordre de l'amour. C'est pour ça que je crois, philosophiquement, j'en suis persuadé, mais je dis je crois pour vous, parce qu'il faut le découvrir, que l'adoration me fait découvrir la véritable autorité. Et qu'à ce moment-là, je comprends que, ayant découvert cette autorité, l'adoration me permet d'obéir. Vraiment. L'obéissance dans toute sa force est une obéissance à l'égard du Père, qui est notre Dieu, notre Créateur. l'obéissance à l'intérieur de la famille. L'obéissance à l'égard de la famille est merveilleuse parce qu'elle dispose. Mais elle ne nous donne pas la vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance n'apparaît que lorsque je puis m'appuyer sur une autorité qui me transcende. De là, comprenons ce que réalise l'obéissance dans notre vie, au plan éthique. C'est très important pour nous, parce que nous sommes en présence du freudisme. Et nous sommes tous plus ou moins influencés par le freudisme. Or, dans la perspective de Freud, l'obéissance est nécessairement liée à une sorte d'emprisonnement, une sorte d'aliénation. Celui qui obéit est aliéné. C'est-à-dire que celui qui obéit ne peut pas acquérir une véritable autonomie. Celui qui obéit est trop relatif à celui qui commande et donc demeure dans un état d'infantilité. L'obéissance n'éduque donc pas, puisqu'elle s'enferme dans l'infantilité. J'ai entendu ça, hein, de bons freudiens. l'obéissance me donne, est-ce que l'obéissance est opposée à l'autonomie? Est-ce que je dois mettre cette opposition? Autonomie, obéissance. Tant que j'obéis, je ne suis pas autonome. Psychologiquement parlant, c'est là où on voit les limites de la psychologie. Psychologiquement parlant, l'autonomie, c'est celui qui se veut. C'est la spontanéité. Vous voyez, quand je parle de psychologie, je parle du conditionnement. Quand je parle de philosophie, cherche philosophique. Je laisse de côté la perspective freudienne. Dans une perspective philosophique, obéir n'est pas une aliénation. Pourquoi ? Parce que obéir est une manière pour moi d'atteindre ma fin. Si je sais qu'en obéissant, j'atteindrai plus vite ma fin que sans obéir, je me sers de celui qui est supérieur pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite. J'accepte le noviciat pour aller plus vite. La foi express. Et je m'en sers le plus que je peux pour aller plus vite. Parce que je sais que par moi-même, j'ai de la peine à découvrir ce qui est le meilleur pour moi. Il y a une opacité en moi-même. Je me connais mal, je perds du temps. Si je suis livré à moi-même, je perds du temps. Je fais des expériences, c'est très bien, je veux faire des expériences. Mais avant de faire toutes les expériences et de comprendre ce qui est le meilleur de moi, il faut du temps. Tandis que je fais confiance à ceux qui sont avant moi, qui sont devant moi, et qui ont déjà fait toutes ces expériences, et qui peuvent m'indiquer le sentier, la route. Donc, voyez, la prudence de celui qui obéit consiste à reconnaître qu'il y a devant moi des êtres qui ont plus d'expérience que moi, qui ont plus de sagesse, qui connaissent mieux. Et je m'en remets à eux. Donc, ce n'est pas une aliénation, c'est au contraire arriver plus vite à la liberté intérieure, à l'autonomie intérieure. En acceptant que, au point de vue extérieur, je suis dépendant. J'accepte une dépendance dans l'ordre du conditionnement pour aller plus vite dans la découverte de la finalité. C'est ça le problème de l'obéissance. J'accepte de reprendre, parce que ça c'est très important. Il faut pouvoir justifier ça devant ceux qui attaquent. Et quelquefois c'est nous-mêmes quand on est de mauvaise humeur. Quand c'est dans le murmure. Le protervus, comme dirait la 15e siècle, le petit diable qui est en nous, hein, il y a un petit diable en nous, qui nous met de mauvaise humeur vis-à-vis de ceux qui nous disent, mais oui, faites ça, vis-à-vis du règlement, mais oui. Oh, si j'avais le temps qui n'était pas coupé, je deviendrais intelligent, mais bien plus vite. Voyez, on regarde l'efficacité. Est-ce que vous êtes entré au couvent pour l'efficacité ou pour aimer? Si c'est pour l'efficacité, vous vous êtes trompé de route. Si c'est pour aimer, réfléchissez. Parce que l'amour demande beaucoup de réflexion. Et vous prenez la voie express pour aimer plus. Et pour aimer plus, vous acceptez d'être en dépendance de quelqu'un qui a autorité sur vous parce que il vous aime et il a une compétence plus grande. Dans l'ordre de l'amour. Il aime plus que vous. Et donc, il peut vous indiquer la route. Il peut vous indiquer la route. Il peut vous montrer que c'est par là qu'il faut passer, et non pas autrement, pour ne pas perdre trop de temps. Donc, la prudence me fait comprendre que je me remets dans les mains de quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, qui est devant moi, et qui, par le fait même, me permet d'éviter certaines pertes de temps et d'ouvrir mon cœur davantage à l'influence de celui que j'aime. Me mettre plus proche de lui. Et pour ça, j'accepte son autorité. Alors, je comprends là comment l'obéissance me permet de prendre une voie express, plus rapide, puisque je me fais aider de quelqu'un de plus compétent que moi dans l'ordre moral, dans l'ordre de l'amour, qu'il connaît mieux. Je ne perds pas mon autonomie, mais je perds une certaine autonomie en vue de quelque chose de plus parfait. Momentanément, c'est vrai, j'accepte que mon conditionnement soit limité pour que, dans l'ordre de la finalité, je sois plus libre. Pour que l'amour soit plus profond. Vous voyez, c'est le dilemme entre conditionnement et finalité. Alors si évidemment je n'arrive pas à saisir la différence entre le conditionnement et la finalité, qui ne peut se saisir qu'au plan philosophique, qui ne peut pas se saisir au plan psychologique. C'est toute la différence entre la sincérité et la vérité, vous voyez, d'ordre pratique. Dans la sincérité, je ne fais pas la distinction. Et dans la vérité, je fais la distinction. La vérité pratique, c'est de voir que je choisis tel moyen en vue de telle fin. Et donc je fais la différence entre le conditionnement qui me fait choisir telle voie d'accès avec la finalité. Et je prends cette voie d'accès en conformité avec la finalité. Je vois donc que mon autonomie particulière à l'égard du conditionnement, je peux très bien la dépasser en obéissant, en allant plus vite et plus loin. Pour Freud, l'autorité est une aliénation. Parce qu'il confond ce qu'est la limite et la détermination. Toute détermination, si elle n'est pas ordonnée à la fin, devient une limite. Mais le jour où je comprends que la détermination m'oriente vers la fin, elle n'est plus une limite. Elle devient un tremplin. Atteindre ma fin. Donc là, il y a une confusion qui est bien l'idéalisme entre détermination et limitation. Pour Leibniz, toute détermination est une limitation. Pour des quantités de gens, toute détermination est une limitation. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas de se déterminer. Pourquoi des tellement de jeunes aujourd'hui n'aiment pas de s'engager? Les vœux. Une répugnance à ça. Se marier, on veut bien l'amour libre, mais surtout pas s'engager. Même pas s'engager en face du maire, et en face du curé, encore pire. On ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que tout engagement est une limitation. Alors que l'engagement doit être un ordre vers une finalité qui me libère, vers un plus grand amour qui me cette confusion terrible aujourd'hui, qu'on retrouve tant du côté affectif que du côté intelligence. Pourquoi des quantités n'aiment pas que l'Église détermine tel dogme? C'est parce qu'ils considèrent que c'est une limitation à la recherche. Ils n'aiment pas que l'Église détermine. C'est une limitation à la c'est une limitation à mes moyens, à mes choix. L'Église a déterminé. Et si l'Église a déterminé, c'est en vue de m'éduquer. Donc vous voyez, s'il n'y a plus le sens de la finalité et le sens de l'autorité, il ne peut plus y avoir d'éducation. Parce que tout ce qui me vient de l'extérieur est une limitation. Alors que ce qui vient de l'extérieur, peut-être pour moi un tremplin magnifique pour aller plus vite, pour atteindre ma fin. Premier aspect. Deuxième aspect. Quand Freud dit que toute obéissance est une aliénation, il faut répondre que l'obéissance est une libération. Parce que quand j'obéis à quelqu'un qui vraiment a autorité, je m'appuie sur lui pour aller plus loin. Et prenant ce qu'il me commande pour être la détermination pratique de ma vie, je m'élève jusqu'à son regard. L'obéissance me permet de rejoindre celui qui a autorité et de faire une œuvre commune avec lui, de coopérer avec lui. Et si je coopère avec lui, je peux dire en toute vérité que j'ai le même regard que lui sur ce qui me finalise. Or, celui qui a autorité, normalement, est devant moi. Normalement, est plus grand que moi, dans l'ordre éthique, dans l'ordre moral. Il voit certaines choses que moi, je ne vois pas. C'est pour ça que j'obéis. Et donc, dans l'obéissance, je coopère avec lui, je m'élève jusqu'au regard du supérieur. Et m'élevant jusqu'au regard du supérieur, j'acquiers une nouvelle liberté. Obéir m'agrandit. Et en m'agrandissant dans l'ordre de l'amour, j'acquiers une nouvelle liberté. C'est celui qui obéit qui est plus libre que celui qui n'obéit pas. Puisque je m'élève au niveau du supérieur. Je fais œuvre commune avec lui. Et donc, à ce moment-là, j'ai un regard plus profond vis-à-vis de ce qu'est ma fin. Je l'atteins plus immédiatement. Je l'atteins comme celui qui a autorité sur moi l'atteint. Je l'atteins plus profondément. Et j'ai vis-à-vis de ma finalité un amour plus. Et je crois que c'est les deux grands aspects qu'on doit souligner pour l'obéissance. C'est la voie express, beaucoup plus rapide. Et c'est la voie qui me libère de mes limitations pour acquérir la liberté du supérieur. Et donc aimer plus. C'est dans ce sens-là que vertu d'obéissance m'ennoblit comme toute vertu et me permet d'aller plus loin et de mieux discerner ce que je dois faire en vue d'atteindre ma fin. Puisque à ce moment-là, je monte sur des échasses, vous voyez. Je me sers du supérieur pour aller plus vite vers ma finalité et pour atteindre plus vite ma finalité. Et comme ce supérieur, en définitive, c'est Dieu, par l'adoration, je le vois, puisque toute autorité vient d'en haut. Si toute autorité vient du Créateur, Père, je peux dire que toute autorité, que tout acte d'obéissance me permet de rejoindre la volonté de Dieu sur moi. Et donc, me permet d'atteindre avec une efficacité beaucoup plus profonde ce qu'est ma finalité. Celui qui seul me finalise, Dieu. Vous voyez comment je peux découvrir, au-delà de cette dialectique d'opposition, la grande unité dans ma vie et la grande force dans ma vie qui m'unit à l'autorité divine et qui me permet de rejoindre cette autorité et de coopérer avec elle. Je crois que c'est cela que nous devons découvrir dans la vertu d'obéissance. Alors, pour qu'il y ait vertu d'obéissance, il faut justement qu'il y ait une finalité sur laquelle repose l'obéissance. Alors, pourquoi l'amitié qui est ma finalité propre et immédiate, ne suffit pas à engendrer en moi la vraie vertu d'obéissance. C'est la question posée du début. Avec l'ami, je peux découvrir ma finalité, puisque l'ami est ma fin. Pourquoi l'amour d'amitié ne suffit pas ou ne peut pas permettre ce dépassement? Parce que justement, l'amour d'amitié est une fin trop immanente à l'espèce humaine. Il n'a pas suffisamment cette transcendance de la finalité pour fonder directement cette possibilité de dépassement que l'obéissance permet. Et seule une finalité transcendante va permettre ce dépassement. Parce que toute vertu, tout acte d'obéissance implique un sacrifice. Je sacrifie ma volonté propre. Et je ne peux sacrifier ma volonté propre qu'à la volonté de Dieu. Je ne peux pas sacrifier ma volonté propre à une volonté humaine. Comme volonté humaine, donc comme la volonté de l'ami. Je peux le faire constamment, c'est ce que font les amis. Mais ce n'est pas, comprenez bien, ce n'est pas vertueux. Ce n'est pas un véritable dépassement. Je demeure dans l'immanence de l'amour d'amitié. Et je ne me dépasse pas totalement. Tandis que quand cette autorité est une autorité divine, l'autorité du Créateur, alors là je me dépasse vraiment. Et donc il y a vraiment vertu d'obéissance. De l'autre côté, il n'y a que disposition dans une confiance totale. Si vous avez des